Je voudrais repartir de la parabole du trésor caché. Je ne pense pas vous l'avoir citée, mais j'ai souvent médité cette parabole en me demandant pourquoi l'homme ne peut pas prendre le trésor dans le champ. Parce qu'il y a quand même une question, hein. Pourquoi il trouve le trésor et il est obligé d'acheter le champ pour acquérir le trésor? Qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, je me risque à une interprétation. Hein. C'est que c'est l'expression, voyez, d'une personne qui a fait l'expérience de la tendresse de Dieu, de la douceur de Dieu, comme dirait Benoît XVI, qui a goûté Dieu, comme il dit aussi dans le document que je vous ai passé, mais qui n'est pas encore en état d'acquérir le royaume. C'est différent de faire une expérience de l'amour de Dieu, un homme de charismatique, il dit j'ai rencontré Jésus, et puis d'être dans l'amitié avec Jésus. Et entre les deux, il y a, on le voit, un prix à payer. L'achat du champ. Le champ dans lequel est le trésor, je dirais que c'est l'état de sainteté. J'ai recherché la sanctification afin de voir, afin de voir le Seigneur. Donc, passer d'une première expérience gratuite donnée par Dieu, alors qu'on est encore tout emprisonné en nous-mêmes, hein, il y a une irruption du royaume de Dieu, mais ensuite, pour que ça devienne un état et une entrée dans une vraie vie d'amour, ben, il y a tout un chemin, quoi. Et c'est là que beaucoup se découragent, évidemment. Ils font l'expérience, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de l'achat. Pourtant, il nous dit que cet homme s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède. Donc apparemment, ça ne lui coûte pas beaucoup. Remarquez, il vend tout, hein. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à tous ses biens. Il vend tout. Dès qu'il est ravi de joie, ça c'est la joie de l'espérance. On est porté par une joie, non pas la joie de la possession, on ne possède pas encore, c'est pas la joie de l'union, c'est pas la joie des épousailles, c'est la joie de l'espérance. On est porté par la grande espérance. Mais si on oublie, si on ne regarde plus, si on n'a plus les yeux tournés vers le trésor, si on comment dire, on ne garde pas la nostalgie de cette vie d'amour qu'on a pressentie possible, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va tomber dans le piège que j'ai déjà cité, c'est-à-dire on va tomber dans la recherche d'une perfection chrétienne, on va tomber dans le moralisme héroïque, et en fait on ne sera plus porté par une véritable espérance, puis il y a un moment où on se lasse, quoi. Il y a un moment où on se dit c'est quand même un peu difficile la vie chrétienne. Ça va un temps, mais bon. Donc le royaume de Dieu. Et là, par rapport à ça, on pourrait repenser à la parabole du semeur, hein, où il est dit que ceux qui accueillent, ils accueillent la parole avec joie, mais ensuite n'ont pas de racine en eux-mêmes, au moment de l'épreuve, ils défaillent. Et puis ceux qui accueillent la parole avec joie, toujours au début, il y a la joie de la découverte, hein, dans les paraboles. Mais après c'est le combat. C'est là que le malin fait tout pour que cette première expérience de Dieu ne puisse pas aboutir, vous faire dévier. Alors, on va continuer à réfléchir sur la sanctification dans la vie concrète, en nous appuyant donc toujours sur l'écriture. J'ai retrouvé la référence sur la sanctification. Je crois que cette petite parole, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens, on l'oublie. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est 1 Thessaloniciens 4, 3. Et je me disais qu'au fond, souvent, on se dit, mais quelle est la volonté de Dieu? ça nous arrive quand même de nous poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Écoutez, avant toute autre réponse, c'est sûr qu'il y a la question de la volonté de Dieu par rapport à ma vocation, ma mission, qu'est-ce que je vais faire pour l'Église, pour les autres. J'ai mille et une raisons de me poser cette question au moment où j'en suis dans ma vie, mais la première volonté de Dieu, si je puis dire, en toutes circonstances, la réponse est donnée par saint Paul. Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Va chercher plus loin. Le plus loin, il sera donné par surcroît. Mais en réalité, en toutes circonstances, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous nous sanctifions. Et j'insiste pour dire que en suivant ce chemin-là, ben on risque pas de se tromper, parce que de fait, Dieu fait tout concourir à notre sanctification d'abord. Donc là, on risque pas d'être déçu. Il n'y a pas de place pour des faux espoirs. Des fois, on se croit investi d'une mission. En fait, c'est pas celle que Dieu veut. Et puis on termine dans la désillusion. Mais par rapport à la sanctification, là, on est toujours gagnant. Et ça rejoint une autre parole qu'on peut interpréter dans ce sens-là, quand Jésus dit « Enlève d'abord la poutre de ton œil, et tu verras clair. » Ben, c'est le « d'abord, enlève d'abord la poutre, purifie-toi, défriche la terre intérieure de ton cœur, enlève les racines du mal, et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui, c'est-à-dire tu auras la lumière pour accomplir ta mission. » D'abord la sanctification, après la mission. La mission, elle vient un peu comme un fruit mûr. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, il aura la lumière pour faire le bien selon sa vocation particulière dans le monde. Au début du renouveau, on insistait beaucoup, on disait dans la communauté de l'Emmanuel, notre première vocation première, c'est la sainteté, et puis il y a la vocation particulière. Actuellement, je trouve qu'il y a une sorte d'insistance un peu trop grande sur la mission. On parle toujours de mission, et un peu moins de sainteté, alors que dans les débuts du renouveau, c'était très fort. On était porté par le message du Concile sur l'appel universel à la sainteté. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a cette idée un peu chez beaucoup qu'ils vont se donner, ils vont pouvoir aimer jusqu'au bout, se donner entièrement sur le terrain de la mission. C'est-à-dire en étant missionnaire à fond. Mais Jésus indique deux temps. Enlève d'abord la poutre, et ensuite tu verras clair. C'est pas cherche de toutes tes forces à enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu vas pouvoir te donner. C'est enlève d'abord la poutre qui est en toi. Travaille sur toi-même d'abord. Ça, c'est plus amer. C'est plus difficile, évidemment. Ça, là, il y a moins d'exaltation. C'est toujours plus facile de travailler sur les autres que de travailler sur soi. Donc, dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, avec, notamment dans la relation avec les autres, dans notre apostolat, avoir ce réflexe, voyez, le réflexe de la sanctification. Au lieu de vouloir tout de suite trouver la solution au problème, par le raisonnement, par le calcul, se dire, attention, qu'est-ce que Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant, c'est-à-dire quelle est la sanctification, le chemin de sanctification pour moi maintenant. Voilà. Ça demande de prendre un peu de recul, évidemment. De voir les choses avec un peu de hauteur et de rester dans la grande espérance. Alors, par rapport à ce travail de sanctification, évidemment, on peut le prendre sous différents, angles, mais il me semblait que le plus intéressant, c'était cette lutte, ce combat contre notre moi. Alors j'ai retrouvé les références. Hein. Le combat contre le moi, ça apparaît en numéro 2730 du catéchisme. Et c'est dans le combat de la prière. Voilà l'expression, le combat contre notre moi possessif et dominateur. Et là, ils disent, le combat contre notre moi possessif et dominateur est la vigilance, la sobriété du cœur. Écoutez, je vous laisse méditer, c'est dans le cadre de la prière. Je n'ai pas de lumière particulière par rapport à ça, mais je note l'expression, le combat contre notre moi. Est-ce qu'on peut identifier ce moi avec le vieil homme? On parle de Saint Paul, il me semble. C'est notre vieil homme, d'un côté il y a l'homme nouveau, l'enfant de Dieu, et puis de l'autre côté il y a le moi. Tantôt c'est l'enfant de Dieu qui prédomine, tantôt c'est le vieil homme qui prédomine. En tout cas, Saint Jean de la Croix dit que dans les purifications, le but des purifications, c'est de détruire le vieil homme. Il doit être détruit. Quand on est sous le coup, si je puis dire, d'une grâce première et de la joie de la découverte, le moi, il apparaît, il est comme submergé par la grâce. Mais en fait, comme disait le père Thomas, le moi, il dort, mais il est toujours vivant. Il va bientôt se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut avoir des jeunes convertis qui s'imaginent qu'ils sont déjà, rentrés dans l'état d'union, et ils ne se doutent pas qu'il y a un moi profond qui fait le mort, mais qui attend son heure. Alors, comment mener ce combat? Alors, j'ai terminé ce matin soulignant que l'essentiel, c'est quand même l'acceptation des mortifications que Dieu lui-même opère directement, ça s'appelle les croix. C'est Dieu lui-même qui donne des coups de hache, ou je sais pas, des coups de... En tout cas, il donne des... Il brise progressivement. Quand je donne des coups, je pense à une image qui est dans le traité de l'abandon à la providence divine, là. Du père de Caussade. En fait, il semble que ce livre n'ait pas été écrit par lui, mais par une de ses dirigées. C'est une femme qui l'a écrit. J'ai lu un article dans l'Observatore Romano, très, très sûr à ce sujet-là. Donc, c'est un écrit féminin. C'est intéressant de lire. Si vous ne l'avez jamais lu, ce livre du père, qui est pour l'instant sous le titre du père de Caussade. Mais il a une très belle image. Il compare l'âme à un bloc de marbre. Le sculpteur, c'est Dieu. Et donc Dieu sculpte l'âme pour la conformer à son fils. Le père sculpte l'âme. Et il lui donne des coups de ciseaux. Et l'âme ne ressent que les coups, mais elle est incapable de voir la statue qui est en train de se former. Et il insiste sur le fait que, comme artiste génial, pour mieux manifester son génie, il se sert de clous tordus et rouillés. Vous voyez le truc? Le truc, c'est nous sommes tous des clous les uns pour les autres. Mais il y en a qu'un qui tient les clous en main et qui sait ce qu'il veut et ce qu'il dessine. C'est notre Père du Ciel. Et nous, on ressent les coups, mais on ne voit pas ce qui se forme à travers. Mais si on veut, faire que ça passe mieux, eh bien, l'essentiel, c'est de ne pas bouger. Là, c'est une autre image. Hein. C'est la personne sur la table d'opération, le chirurgien opère. S'il se met à bouger, ça va être plus douloureux. Il y a des moments où on ne bouge pas. On reçoit les coups. Me revient une autre image, cette fois qui est du petit Van. Le petit Van, il a reçu un coup très fort. Ce coup très fort, c'est à l'âge de 15 ans, vous connaissez sa vie, hein, il était novice chez les rédemptoristes, il voulait être prêtre, il avait ce désir. C'est un garçon manifestement intelligent, mais de milieu très pauvre. Il est tombé sur un maître des novices qui s'est mis dans la tête, il s'est mis dans l'idée que le petit Van n'avait pas les capacités pour être prêtre. Vous connaissez l'histoire, hein? Donc, pour le, vous imaginez à 15 ans comme un idéal de sacerdoce, hein, qu'on se heurte à un maître des novices comme ça, qui d'une manière tout à fait arbitraire, injuste, coupe et barre, c'est, comme disait le père Thomas, les croix, c'est les routes barrées, quoi. Le truc, la contradiction, le truc absurde, on n'a pas de sens, hein, qui nous blesse dans les désirs les plus légitimes et les plus nobles qu'on peut avoir. Et donc il était en colère, évidemment, contre le maître des novices. Il avait une intimité particulière avec l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus lui apparaît et lui dit, t'es comme les chiens, quand on leur jette une pierre, ils s'attaquent à la pierre au lieu de regarder celui qui a jeté la pierre. Ça, c'est le regard de la foi. Alors, nous sommes tous des pierres les uns pour les autres, ou des clous, tordus, plus ou moins tordus. Écoutez le conseil. Ainsi donc, c'est ce que je vous avais cité, mais pas tout à fait dans le texte. C'est Lumen Gentium au numéro 41. C'est sur la sanctification, l'appel universel à la sainteté. Numéro 41 de Lumen Gentium. Tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les charges et les circonstances qui sont celles de leur vie. En réalité, il n'y a rien à changer, entre guillemets, dans les conditions qui sont celles de notre vie présente, quelle que soit cette condition, hein, tous ceux qui croient au Christ vont pouvoir se sanctifier. Il n'y a aucun problème. C'est tellement vrai que, rappelez-vous ce que dit saint Paul, « Es-tu esclave lors de ton appel, ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mais plutôt profite à condition d'esclave. » C'est incroyable qu'on puisse parler comme ça. C'est ce que dit le Concile. Quelles que soient les conditions, les charges, pas de problème. Mais à profit, ta condition. Il faut dire que dans l'Ecclésiastique, il y a une parole que j'aime beaucoup qui dit que l'esclave sage a comme serviteur les hommes libres, puisqu'il les a comme clous, et comme pierre, et comme instrument de sanctification. Il les a comme serviteurs. Bon. Tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les charges et les circonstances qui sont celles de leur vie, et grâce à elles, même si elles apparaissent humainement absurdes, hein, si cependant ils reçoivent avec foi toutes choses de la main du Père Céleste. C'est là, la base. Le regard de foi. Maintenir ce regard de foi éveillé, Dieu sait ce qu'il permet, Dieu sait ce qu'il fait ou permet, enfin peu importe, qu'il soit permis ou fait, de toute façon il sait. Il n'y a rien n'échappe à son amour miséricordieux qui a tout assumé sur la croix. Donc tout peut être transformé en un bien plus grand. Ben, si on vivait tout le temps à cette hauteur-là, avec cette foi-là, et puis l'espérance de la vie d'amour comme horizon, la grande espérance, c'est sûr qu'on se rendrait moins malheureux. Ça, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'on est comme des ailes qui déploient leurs aigles et qui courent sans se fatiguer, sans buter sur les choses. Mais quand même, je dois, pour être honnête, dire que le Concile rajoute et coopère à l'accomplissement de la volonté de Dieu en faisant paraître aux yeux de tous dans leur service temporel lui-même la charité avec laquelle Dieu nous a aimé le monde. Il y a un exercice de la charité qui est en même temps demandé, mais rappelez-vous, Sainte Thérèse d'Avila, charité fraternelle, pauvreté, humilité. Pauvreté, humilité, c'est la mortification du moi, possessif et dominateur. Mais il y a l'exercice de la charité fraternelle. Mais l'exercice de la charité fraternelle, c'est pas de vouloir changer les autres. De vouloir changer les autres. En tout cas, c'est pas de se donner une mission. C'est l'exercice de la charité fraternelle on va essayer de le préciser demain, mais c'est d'abord un exercice comme Jésus nous a aimés lui-même sur la croix, hein, d'aimer les autres comme Jésus les a aimés dans sa passion. pas de vouloir à tout prix enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre alors qu'on n'a pas encore la lumière. Alors, le Seigneur, souvent, il nous. Et quand il veut nous. Comment dire. Nous donner de faire quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent il nous éprouve et il nous amène à poser des actes de renoncement à notre volonté propre, parce qu'il y avait sûrement trop encore de nous-mêmes. Et je repense à ce qui s'est passé. J'avais le projet depuis septembre de pouvoir vivre Noël à Paris, chez les sœurs de la Rue Gay-Lussac, en même temps que je serai avec ma famille auprès de mon père en fin de vie. J'avais fait ce projet, et 15 jours après, les sœurs me disent « Ah ben non, il y a les pères spiritains qui ont dit que c'était à eux de lire la messe et pas à quelqu'un d'autre, et le supérieur est très en colère d'ailleurs qu'on ait accepté que ce soit vous, ils ont dû faire marche arrière, on est vraiment désolé. » Je dis « Bon, ben, il y avait encore un peu trop de projets, j'avais mon projet pour les sœurs. » Et 3 semaines avant Noël, la sœur me rappelle en disant « Ah, ben finalement, les pères spiritains, ils sont tous, partent tous en vacances pendant Noël, ils seraient bien contents que vous puissiez... » Mais c'est le Seigneur qui fait ça. Vous voyez, il brise qu'il y a trop de volonté propre, hein, et après il redonne. Pour tous, vous avouez, hier, quand Alain a dit bon, alors si on fera pas à 17h, on fera le vendredi matin, moi j'étais sur les starting blocks, je me disais mais j'ai tout préparé pour cet après-midi. Je me suis dit bon, bah, je lâche. Mais après, il est revenu. Mais c'est souvent comme ça. Seigneur, vous voyez, il brise un peu ce qui reste à briser pour qu'on puisse, vivre l'action plus dans l'abandon. Il y a toujours, souvent, de notre moi possessif et dominateur qui est là, et il y a besoin d'une mortification. Mais ce sont les circonstances qui le font. Si on ne sait pas prendre la balle au bon, et qu'on se dit, bah, c'est pas normal, on avait fixé 17h, maintenant, non, c'est ridicule ça. C'est ridicule. C'est du n'importe quoi. Non, mais quand on y pense, on est vraiment bête de ne pas voir l'action de Dieu d'abord, de voir Dieu en tout. Il avait eu cette expression, Jean-Paul, il disait, pour une spiritualité de l'action, il disait, voir Dieu en tout, c'est-à-dire voir l'action de Dieu en tout. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas bien où il veut nous mener, mais on pose dans la foi que c'est lui qui agit à travers tout, même à travers le méchant. Et il rajoute, et voir tout en Dieu. Et dans cet ordre-là, voir Dieu en tout, et ensuite tout en Dieu. Enlève d'abord la poutre et tu auras la lumière pour voir. Voir Dieu en tout et tout en Dieu, pour faire des œuvres lumineuses. Et les œuvres lumineuses supposent que le cœur soit purifié, pour qu'on voit Dieu en tout. Il faut voir Dieu. Voir Dieu, il faut être purifié. Il faut que le moi soit brisé. Alors, encore une fois, vous voyez, tant qu'on n'est pas radicalement et, si je puis dire, définitivement brisé, parce que quand le moi est mort, il est mort, il ne va pas ressusciter. Et ça, c'est l'état de sainteté. Mais tant qu'on n'est pas parvenu à cet état où le vieil homme est vraiment détruit, eh bien, il faut que chaque mission soit précédée par une purification. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des combats, comme on dit, des combats avant des retraites ou des combats avant. C'est le Seigneur qui prépare le terrain. Il se sert du démon pour ça aussi. Pas de problème. Il se sert de tout. Très bon agent de sanctification, le démon. Hein? Bon, on le voit avec dans le livre de Job, hein. C'est tellement vrai que je dis ça, hein, c'est parce que saint Thomas d'Aquin explique pourquoi Dieu laisse une certaine liberté au démon, Il explique très bien, il dit pour que malgré lui, il accomplisse sa mission d'ange gardien. Une audace de théologien incroyable. Ben oui. En définitive, c'est une créature qui ne fait rien sans permission divine. C'est un chien méchant tout tenu en laisse, donc il n'y a pas à craindre. Bon. Alors, essayons de comprendre ce combat contre notre moi possessif et dominateur sur le terrain de l'action. Parce que, en définitive, qu'est-ce que fait le péché originel, la marque, enfin, profonde du péché originel. Je vous lis le numéro 398. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Ça, c'est cette recherche de se complaire en soi au lieu de se complaire en Dieu. Ça, c'est vraiment l'enfer, hein, de rester tourné sur soi, à se regarder soi, au lieu de regarder vers la beauté des beautés. Donc l'homme s'est préféré lui-même à Dieu, par là même il a méprisé Dieu, il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu, c'est-à-dire entrer dans cette vie d'amour, divinisé dans la charité divine, hein, dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu et non pas selon Dieu. Il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu. Très concrètement, ça veut dire quoi? Il y a une recherche d'être quelqu'un, entre guillemets. D'être quelqu'un comme Dieu, ça veut dire en fait, quelque part, je disais au début, hein, que c'était une recherche d'être quelqu'un qui aime, Dieu est amour, hein. Mais en fait, on cherche un idéal, on cherche à prouver qu'on aime, à se prouver à soi-même, à prouver aux autres. Une recherche d'être, de réalisation de soi, mais sans Dieu, c'est-à-dire par soi. Là, je me souviens d'une expression admirable, d'un très blessé qui m'a dit « moi par moi ». Il y a tout là-dedans. Moi, c'est moi que je cherche. La réalisation de moi, et moi par moi, sans Dieu, sans dépendre de Dieu. De penser qu'on puisse vivre un moi par moi toute sa vie tout en ayant l'impression de servir Dieu, ça fait frémir. Mais c'est bien le cas des pharisiens que Jésus dénonce. Et pourtant, ils avaient du zèle pour Dieu. En fait, c'était moi par moi. Parce qu'ils faisaient tout pour se faire remarquer des âmes. Ils cherchaient leur propre gloire, pour se faire remarquer comme des hommes religieux, comme des hommes aimants. Donc cette secrète recherche de soi, elle se vit concrètement dans une vie où on cherche à se réaliser soi-même. Et on cherche à se réaliser soi-même à travers les œuvres. C'est à travers les œuvres que l'on prouve ce que l'on est. Ils font tout ce qu'ils font, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Sur la paroisse, j'ai eu l'occasion de parler avec une petite fille du catéchisme qui a dit que sa maman voulait divorcer. J'ai pu voir la maman et je lui ai demandé simplement, je lui ai dit, écoutez, votre fille m'a parlé, je veux simplement savoir un petit peu le tenant et l'aboutissant. Au début, elle refusait tout dialogue et finalement, elle acceptait de parler et elle m'expliquait qu'en fait, elle avait compris qu'il fallait qu'elle quitte son mari parce que son mari l'empêchait de se réaliser elle-même. C'est la crise de la quarantaine, hein, sous motif de réalisation de soi. On marche complètement. complètement sur la tête, hein. Cette fameuse réalisation de soi, elle est là dans l'ambiance. L'homme moderne, c'est un homme qui est en recherche de lui-même, de réalisation de lui-même, développement personnel, jamais. Tout ça, ça traverse bien l'Église. On est tous contaminés. C'est-à-dire, on vit la réussite de notre vie sous un mode de réussite d'une mission, d'une position. On est dans le faire. Et on a beaucoup de mal à admettre que la réalisation, la vraie réalisation de notre vie, elle est dans la relation d'amour avec notre Père du Ciel. Elle est dans cette vie d'amour. En réalité, intellectuellement, on est d'accord, c'est l'amour qui compte, tout ça, la vie d'amour, tout ça. Mais dans la réalité, ce qui compte, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est la réalisation. La réalisation de quelque chose, d'une œuvre, la réalisation de nous-mêmes à travers l'œuvre. Pour vous remettre un peu dans l'axe, je vous cite le début de la nuit obscure de Saint Jean de la Croix, qui exprime la joie d'un homme qui est entré dans l'union et qui a lâché tout le reste. Il dit la joie, il exprime la joie de l'âme qui est passée par le sentier étroit, qui est la nuit obscure. Par une nuit obscure, c'est la première strophe du cantique, par une nuit obscure, ardente d'un amour plein d'angoisse. Là, c'est ardente d'un amour, c'est le feu, hein, de l'amour divin qui anime l'âme. Qui passe par une nuit obscure, ô heureuse fortune, je sortis sans être vu, ma maison étant désormais accoisée. Je sortis sans être vu. L'âme rapporte en ce premier cantique le moyen et la manière dont elle sortit de soi. C'est là la vraie réalisation de soi, elle est dans la sortie de soi. Et de toute chose qui nous attache, nous licote le cœur d'attachement. Elle a lâché l'attachement à soi et à toute chose. Quant à l'affection, mourant par une vraie mortification à elle toute et à soi-même. Détachement des réalités, des créatures, détachement de soi-même. Pour avoir le bien de vivre une vie d'amour, douce et savoureuse avec Dieu. Voilà la grande espérance. Mais on vit dans un monde qui est contradictoire, parce qu'à la fois on sent bien une soif d'union, les gens recherchent l'union dans la fusion affective et sexuelle, et puis en même temps on se laisse prendre complètement par le faire. Et ici, c'est les mystiques qui nous aident à nous remettre dans l'axe. L'homme ne peut se trouver lui-même que dans la relation à son Père du Ciel, dans une relation extatique. C'est celui qui se perd de vue, il sort de lui-même, celui qui se laisse fasciner par Dieu, qui se retrouve lui-même. C'est ça qui est impressionnant chez les personnes, j'en connais qu'une, qui ont vécu ça, qui sont établies dans cet état-là, c'est qu'elles sont parfaitement elles-mêmes. Il n'y a rien de plus naturel qu'un saint. Elles sont totalement elles-mêmes. Elles sont rendues elles-mêmes, restituées elles-mêmes. Il n'y a aucune aliénation dans la relation avec Dieu. L'homme est révélé à lui-même, cette révélation de soi à soi que l'homme recherche, hein, cherche à se réaliser, à se révéler, elle est donnée par surcroît, comme ça. Et ça fait des personnalités fortes, je dirais, et puis totalement cohérentes. Alors, il y a une une manière de vivre la réalisation de soi par soi sous couleur de spiritualité, c'est de proclamer qu'on a une confiance totale en Dieu. Oui, on a une confiance totale en Dieu que Dieu va bien réaliser nos projets. Et alors là, c'est, on chante sur tous les toits que vraiment, nous, on fait vraiment confiance à Dieu parce qu'il est bon pour moi et donc il va faire ce que je désire, évidemment. Hein? Oui, mais ce n'est pas ça le chemin. Le pape Benoît XVI a dénoncé ça dans notre audience du carême 2013. Au moment où il allait nous quitter, il a reparlé du péché originel et il a dit que dans le concret de la vie, ce péché originel, c'était notamment cette religiosité superficielle qui fait qu'on met Dieu au service de nos projets. Évidemment, nos projets, c'est pour Dieu. Oui, enfin, c'est nos projets. Pour la gloire de Dieu, évidemment, ça va de soi. C'est nos projets. En fait, on ne lâche pas les rênes, quoi. On ne lâche pas les rênes. Et pourquoi on ne lâche pas les rênes? Parce qu'on a peur de dépendre d'un autre. Et cette peur, elle est viscérale. La peur de se déprendre, la démaîtrise de notre vie. La peur du vide, hein, de sauter dans le vide. Ça, une personne très simple me disait, la foi, c'est de sauter en parachute, en fait, sans parachute. Ouais. C'est-à-dire, sans appui, et pourtant appuyé, pour reprendre l'expression de Saint Jean de la Croix, sans appui et pourtant appuyé, c'est le sans appui qui est de lâcher nos faux espoirs, nos fausses bonnes idées, nos fausses vocations, enfin, tout ce qu'on s'est construit pour avoir l'impression de... Enfin, pour pouvoir garder un semblant de maîtrise de notre vie. Alors, j'ai insisté ce matin sur le fait que une vie vécue dans la pauvreté, c'est-à-dire sans appui, sans sécurité, et l'humilité, l'abaissement, c'est-à-dire dans un renoncement à dominer les choses et à maîtriser notre vie, c'est Jésus qui l'a vécu lui-même, cette vie-là. Donc Jésus a vécu une vie humaine, semblable à la nôtre, mais toute filiale. Toute dans une relation de dépendance totale au Père, dans un abandon amoureux au Père. Alors je vous cite quelques paroles du Christ, dans lesquelles il nous parle de son âme. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Ça, vous savez, c'est Jean 5, 19. Donc, il dit en Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. » Donc, arrêtons-nous un instant et essayons de contempler ce « je ne peux rien faire de moi-même ». Un autre passage, il dit « quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même ». Mais ce n'est pas seulement qu'il ne fait rien de lui-même, Jésus, mais qu'il ne peut rien faire de lui-même. Nous, on passe notre temps à faire plein de choses de nous-mêmes. Hein? Mus par notre moi possessif et dominateur. Mais qu'est-ce que ça signifie l'état d'un homme? Quel est l'état d'un homme qui peut dire comme ça, je ne peux rien faire de moi-même? Hein? Moi, je lis ça dans la lumière du psaume 130. Hein. Je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère. Égale et silencieuse. Vous connaissez le verset précédent, je ne poursuis ni grand projet ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre moteur que l'obéissance filiale, le désir de plaire à son père amoureusement. Il n'y a pas d'autre moteur. Comme il n'y a pas d'autre moteur, eh bien, il n'y a pas d'autre force. Donc il ne peut, il n'a pas le pouvoir de faire autre chose, de faire de lui-même. Parce qu'il n'y a rien qui le pousse à faire de lui-même. Parce que toute sa joie, c'est, elle est dans l'accomplissement de la volonté du Père. Ben, c'est ça l'état de sainteté. C'est quand on trouve toute sa joie dans cette relation amoureuse au Père, dans cet abandon amoureux au Père, et que on n'a plus aucune, rien qui nous motive pour rechercher cette fameuse réalisation de soi par soi, parce que notre joie, elle est dans l'obéissance elle-même. Jean-Paul II a eu cette expression extraordinaire, il a dit le nouveau nom de l'amour, c'est l'obéissance. Jean-Paul II. Le nouveau nom de l'amour, c'est l'obéissance. Là, on se dit, comment je peux faire pour aimer ? En toutes circonstances, je peux obéir. Obéir au Père, dans le Fils. Et concrètement, ça s'appelle l'abandon, en fait, un abandon filial amoureux. C'est la première forme de la charité divine. C'est si vrai que, comme l'a dit Jean-Paul II en citant saint François de Sales, les degrés de la charité se mesurent au degré d'abandon. Ils ne se mesurent pas au degré de générosité. Ils ne se mesurent pas au temps qu'on consacre à faire des œuvres. Ils se mesurent au degré d'abandon. La réussite de ma vie, c'est cette croissance de l'abandon. Dans l'abandon, c'est la manière concrète de se laisser aimer dans une dépendance à un autre pour pouvoir aimer nous-mêmes du même amour. Père Thomas parlait d'une passivité aimante. On se laisse aimer en se laissant faire. Se laisser faire avant de faire, accueillir, recevoir toute chose de la main du Père, cette passivité face aux événements, voyez. Passivité face aux événements, ça c'est insupportable pour l'homme moderne. Rien que le mot passivité, à chaque fois que je le mets dans mes cours, les gens réagissent. Mais je fais exprès parce qu'ils savent bien qu'il y a une réaction. Passivité. Passivité. On va rajouter aimante pour ne pas faire peur, mais passivité. Écoutez le cardinal Ratzinger. Il donne Marie comme modèle de la personne, prototype de la femme en tant qu'elle a une capacité particulière à accueillir, à écouter, à se laisser aimer. Regarder Marie est limité, ça ne signifie pas laisser l'Église dans une passivité issue d'une conception dépassée de la féminité et la condamner à une vulnérabilité dangereuse, dans un monde où compte surtout la domination du pouvoir. Il répond tout de suite à l'objection de la passivité, il n'est pas du tout réaliste. Rentrer dans la passivité de Marie, surtout dans un monde où il n'y a pas de cadeau. En réalité, le chemin du Christ n'est pas celui de la domination. Celui du pouvoir dans le sens où le monde l'entend. On peut apprendre du Fils de Dieu que cette passivité est en réalité la voie de l'amour. Pas d'autre voie. Pas d'autre voie. Elle est un pouvoir royal qui triomphe de toute violence. Pas d'autre victoire. Elle est une passion qui sauve le monde du péché et de la mort et qui recrée l'humanité. En confiant l'apôtre Jean à sa mère, le crucifié invite son Église à apprendre de Marie le secret de l'amour vainqueur. Le pape Benoît XVI a dit qu'il n'était pas un mystique, mais enfin, il a bien compris l'essentiel de la vie, de ce qui fait la vie mystique. Elle est dans cette passivité. Vous voyez, une passivité à vivre dans l'action, sur le terrain de l'action. Parce que dire, moi, je suis passif pendant mon temps de prière, bon, ça c'est relativement facile, encore que s'exercer déjà dans la prière, à pas être tendu dans la prière, à vouloir prier, à tout prier nous-mêmes, par nos propres forces. La prière, c'est d'abord un don de Dieu, il y a une passivité dans la prière. Il faut laisser venir. La prière, c'est d'abord l'action de l'Esprit Saint en nous. Mais disons que la passivité dans le concret du combat contre le moi possessif et dominateur, c'est vraiment sur le terrain de l'apostolat, sur le terrain de notre travail, de la mission. Donc on peut dire que Jésus est allé jusqu'au bout de cette passivité sur la croix pour réparer le péché originel. Il a porté à ce moment-là et il a guéri toutes nos actions mues par une volonté de domination, par la toute-puissance, comme disent les psys. Hein. Nombre de gens qui actuellement, on dit, ils sont dans la toute-puissance. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Et Dieu va m'aider pour ça, évidemment, j'ai confiance en lui. Alors, qu'est-ce que dit Jésus dans un autre passage? Il dit, celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Plus largement, on pourrait dire, celui qui agit de lui-même, Jésus, lui, ne fait rien de lui-même. Et celui qui fait de lui-même, forcément, il cherche sa propre gloire. À chaque fois qu'on agit sans être dans un esprit d'abandon obéissant filial, on agit pour sa propre gloire, qu'on le veuille, qu'on en ait conscience ou non. On se recherche soi. Si on ne recherche pas le royaume de Dieu et la volonté du Père, on se recherche soi. C'est Dieu ou moi? Dire qu'on le fait pour les autres, c'est de la blague. Ou on le fait vraiment pour Dieu, pour plaire à Dieu comme un petit enfant, ou on le fait pour soi. Et dans ces moments-là, on est mu par ce moi possessif et dominateur qui est le moteur de l'action. C'est le moi qui reprend les commandes, hein. Mais avec évidemment une bonne intention, une intention très chrétienne et très charitable. En fait, on se fait piéger par l'intention. Bien ce que dit Jésus, Saint Paul à propos des Corinthiens, ils ont du zèle pour Dieu, ça c'est l'intention, mais il est mal éclairé. Il faut distinguer l'intention volontaire, ce que l'on veut faire, vouloir le bien, hein, vouloir le bien de l'autre, et puis l'intention, ce que le catéchisme appelle l'intention profonde du cœur. C'est ici que je me permets de citer Saint Jean de la Croix. Pourquoi il faut remarquer qu'entre diverses précautions dont le démon se sert pour tromper les personnes spirituelles, la plus ordinaire est celle par laquelle il les engage dans ses filets sous prétexte de bien et non sous prétexte de mal, car il sait fort bien qu'elle consentirait rarement au mal manifeste. Vous devez toujours craindre ce qui a l'apparence du bien à faire. C'est plus dangereux que les tentations sur le mal. Vous devez toujours craindre ce qui a l'apparence du bien, principalement quand vous ne le faites pas par obéissance. Là, on est dans le piège. Là, on est vraiment dans le vrai piège. Parce que les colères spontanées, tout ce qu'on fait à cause des convoitises de la chair, tout ça, tout ce qui est spontané, c'est pas grave. Mais de rester, je dirais, accroché à un vouloir faire, et faire le bien, mais un vouloir faire qui est notre vouloir à nous, dans lequel on recherche sa propre gloire, et obstinément, ça c'est grave. On cherche sa propre gloire, c'est l'orgueil. On a sa volonté propre, son idée propre, son projet propre. Et en plus, on proclame qu'on fait tout pour Dieu. Et pour les autres, évidemment. Avec la plus grande générosité qui soit. Mais imaginez dans une communauté de prêtres, chacun son projet apostolique. Sous prétexte de bien, volonté propre contre volonté propre. La paroisse, elle explose. Alors, les tentations sur le bien sont les plus dangereuses, les plus perfides. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prévenir? Moi, depuis longtemps, je n'ai pas retrouvé les références. Je pense que c'est dans la vie dévote. Je garde dans l'esprit un conseil de saint François de Sales. Ne rien faire en dehors du devoir d'État ou d'une inspiration divine. Alors, encore faut-il reconnaître les inspirations divines. Mais sinon, s'en tenir à son devoir d'État. Pour le reste, laisser venir. Alors je donne un exemple très simple, moi j'ai une très mauvaise mémoire, je ne suis pas un bon conteur, mais c'est tout frais. Quand j'étais à Paray-le-Monial, j'étais heureux de retrouver des frères, surtout que je n'ai pas de week-end communautaire, cette année pratiquement pas, tout tombe mal au niveau des dates. Et que j'ai pas de maisonnée, j'ai rien. Bon. Là j'avais la possibilité de rencontrer des frères, bien. Et dans un mouvement un peu d'impatience, dès que je rencontrais une personne que je connaissais un peu, j'allais la voir et je lui disais bonjour, tout ça, et puis j'éprouvais le besoin de parler. Je me suis rendu compte très vite que je me heurtais à des non-dialogues, la personne n'était pas disponible. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ça? Ben, il voulait me dire que j'agissais de moi-même. Il me dit, à un moment, je suis pas drôle. Non, non, je suis pas drôle du tout. Alors j'ai fait une autre politique. À la sortie de la messe, je me tenais au seuil de la porte et j'attendais que ça vienne. Et à chaque fois, c'était des rencontres superbes. Je laissais venir. Mais ça a été un sacré renoncement parce que moi, j'avais ce désir de rencontrer. Mais ce n'était pas un devoir d'État. Pas de devoir d'État de parler aux gens. C'était mon projet de rencontrer le plus de frères et de sœurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une journée, il y a des moments où il faut rentrer dans une passivité effective, c'est-à-dire pas avoir peur du vide. On attend le moment favorable. On laisse venir. On s'en tient. Tiens-toi à ta besogne, dit le Siracide. Tiens-toi à ta besogne. On reste dans ce devoir. J'ai retrouvé chez la petite Thérèse. Elle est où la petite Thérèse? J'ai retrouvé. Je l'ai peut-être. Non, si, elle est là, la petite Thérèse. J'ai retrouvé chez la petite Thérèse une grande marque de sagesse de la part d'une personne qui était encore novice. Elle était novice elle avait pratiquement 15 ans ou 16 ans. Hein. Elle était novice avec une autre qui était plus âgée qu'elle, mais qui était immature. Il y avait bien des choses dans sa conduite envers les sœurs que j'aurais désiré qu'elle changeât. Mais ce n'était pas son devoir d'État. On est bien d'accord. Elle n'était pas maîtresse de novice de la sœur, elle était avec elle novice. Elle comprenait que Dieu fait les choses, Dieu est patient, hein, qu'il donne sa lumière que par degrés. Aussi, je me gardais bien d'avancer son heure et j'attendais patiemment qu'il plaise à Jésus de la faire arriver. Laissez venir. Elle avait le désir que la novice change. Ça, c'est un projet qui est bon. Enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Bon, pourquoi pas? Le Seigneur peut se servir d'elle. Il faut croire que c'était un désir qui venait de Dieu. Mais elle n'en a pas transformé en une volonté propre. Elle n'en a pas fait son projet. Elle dit avec beaucoup qu'elle a su attendre l'heure de Dieu. Alors, je suppliais le bon Dieu. Il y a eu un jour, pendant son action de grâce, elle a été poussée, elle a supplié le bon Dieu de lui mettre dans la bouche des paroles douces et convaincantes, ou plutôt de parler lui-même par moi. Elle est consciente qu'elle ne peut rien faire d'elle-même déjà. Vous voyez, ça, à 15 ans. Ouais. Jésus exauça ma prière, il permit que le résultat comble entièrement mon espérance. Elle la raconte. À l'heure à laquelle nous avions résolu d'être ensemble, étant arrivée, elles avaient rendez-vous, hein, la pauvre petite sœur, en jetant les yeux sur moi, vit tout de suite que je n'étais plus la même. Elle-même, elle a fait un chemin. J'étais dans une relation assez affective. Pendant ce temps, elle a fait un chemin, elle s'est changée elle-même. Elle a vu tout de suite qu'elle n'était plus la même. Elle s'assit à mes côtés en rugissant, et moi, en appuyant sa tête sur mon cœur, je lui dis avec des larmes dans la voix tout ce que je pensais d'elle, mais avec des expressions si tendres, en lui témoignant une si grande affection, que bientôt ses larmes se mêlèrent aux miennes. Elle convint avec beaucoup d'humilité que tout ce que je disais était vrai. La patience. La patience. On attend, on laisse venir l'occasion. On porte les choses dans la prière, dans la passivité. On travaille sur ce qui pourrait rester de volonté propre, d'esprit de domination. On mortifie, on attend l'heure, et à ce moment-là, quand c'est l'heure, le fruit est mûr. Elle reconnaît humblement, parce que Thérèse agit humblement. Moi, j'ai plutôt un tempérament à la base, en fait, coléreux, et puis aussi, j'aime bien rentrer dedans. Mais je me suis calmé. Je me suis calmé, parce que j'ai tellement vu que ça ne servait à rien. Vraiment rien de rien. C'est Pascalide qui avait cette belle expression. Quand on rate son coup, après la personne, elle fait des anticorps. Ça renforce ses défenses. C'est encore plus difficile de lui faire entendre quelque chose parce qu'on l'a blessé, on s'y est mal pris. Ça suffit, Peter. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.